Le caucus avec Antonine Iaccarini. Normalement de midi à 12h30, mais là...
Ben là...
La province de Québec vibre.
La nation québécoise.
La nation québécoise, c'est vrai, avec toi, il faut que je fasse attention. Faut jamais j'appelle ça une province. Donc, la nation québécoise vibre hockey. Donc, on n'a pas le choix. En passant, là, les vieux babouneux de Québec, là, puis je faisais partie de vous autres, là, à peu près 2-3 ans. Là, arrêtez de gâcher le fun de nos jeunes.
Ouais.
Moi, mes gonds des jets du Canadien sur le dos. Puis qu'est-ce que tu veux que je fais avec?
Ben non, oui. Ils peuvent vous gonner, mais dans leur salon.
Ben non, mais là, c'est parce que quand j'entends dire « Notre équipe, c'est l'Avalanche du Colorado », voyons donc!
Non, là, peut-être là, j'ai entendu ce matin.
On disait qu'on déménageait à Colorado.
Dans
on
votre
s'est fait
pit
voler
stop,
notre club,
dans
c'est
votre
ça.
Pit stop avec Denis ce matin, là, ça s'obstinait sur. Si, mettons, c'est l'Avalanche puis Canadien, notre
pour
chandail bleu, il est-tu du Canadien ou il est de l'Avalanche? Est-ce que l'Avalanche, c'est vraiment nos anciens Nordiques? Là, ça s'obstinait. L'Avalanche, ce n'est pas les anciens Nordiques.
Non.
Le Canadien n'est pas le club des Nordiques. Les Nordiques, je pense, ne reviendront pas.
Non, exactement. Donc là, on arrête de babouner, puis profitez donc des bons moments.
Mais vous pouvez encore écouter de vieilles games, si ça vous fait plaisir. Là.
C'est
comme Omerta, c'est comme Virginie.
Il
c'est
était
encore
bon,
disponible.
Le but d'un côté,
il était bon. Ça, bon, puis il était bon, le but d'un côté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hey, on parle même hockey en France. On écoute notre première ministre, Christine Fréchette.
À la fin, oui. Je dirais que sur le chemin du retour, bon, d'une part, je lui ai offert un petit cadeau sympathique. Je lui ai offert un chandail à l'effigie du joueur français dans l'équipe du Canadien, Monsieur Texier, Alexandre Texier. Donc, je lui ai expliqué que même la voix d'Alexandre Texier était utilisée pour le métro, lorsqu'on arrive à la station qui est sous le Centre Bell. Puis à ce moment-là, il y a vraiment, je dirais, une approche très cordiale puis amicale, pratiquement, qui s'est installée. Alors, très sympathique, très contente. Et puis, assurément, on va maintenir le contact.
Comment régler la géopolitique mondiale? T'as remis un gilet du Canadien au président français, Pierre? On est rendu chumé-chumé!
Ben oui, mais tu le sais que le sport rapproche les gens.
Exactement.
Et un sentiment très utile en politique, en acceptabilité sociale, en relations publiques, c'est la fierté.
Mm-hmm.
Puis quand tu vas dire à quelqu'un... vous avez un joueur qui vient de chez vous qui est dans notre équipe et on l'aime beaucoup. Ben, c'est sûr que tu mets quelqu'un dans des bonnes dispositions.
Oui.
Imagine si on avait un Québécois dans l'équipe de foot de France, comment on serait content. Ben oui.
Hey, c'est vrai, ça.
On peut rêver.
On se ferait aller. On peut rêver, ça n'arrivera pas, mais on se ferait aller. Ceci dit, Christine Fréchette est en France. Bon, moi, j'avais entendu deux objectifs clairs. De un, tisser des liens pour tout ce qui est entrepreneuriat autour du militaire, parce qu'on parle énormément de ça. Puis c'était de faire en sorte qu'Emmanuel Macron utilise son pouvoir d'influence pour que la Banque de la Défense s'en vienne à Montréal. Premier objectif, j'irai atteint. Deuxième objectif, par exemple, oh boy,
on
s'est cassé à gueule. Hein?
D'abord, un petit rappel des faits. C'est Mark Carney, premier ministre du Canada, qui doit choisir l'emplacement de cette banque de défense qui sera au Canada, ce qui est une bonne nouvelle pour le pays. Mais évidemment, tout le monde tire sur la couverte. Est-ce que ce sera Vancouver, Ottawa, Toronto ou Montréal, toutes des villes dans lesquelles il y a des équipes de hockey aussi, si tu veux faire un énième lien entre le hockey et la politique ces temps-ci. Et évidemment qu'on veut que cette banque-là soit à Montréal puis que ça joue du coude et ça joue dur. Mais d'aller demander à un chef d'État d'un autre pays de s'ingérer dans un processus qui est une décision du premier ministre du Canada, ben, c'est pas une bonne idée. Est-ce que c'était vraiment prévu? Est-ce qu'à l'interne, il y a eu des discussions pour dire non, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée? Pourquoi je dis est-ce qu'il y a eu des discussions? Parce que le délégué général du Québec à Paris, M. Rousseau, s'est un peu désolidarisé de la stratégie de Mme Fréchette par la suite, puis il a laissé entendre, ouais, c'était pas une bien bonne idée de demander à M. Macron de se commettre publiquement. Jamais il ne le fera. En tout cas, c'était pas une bonne idée non plus de se désolidariser de la personne qui te nomme dans ton poste.
Lui, c'est l'ancien dirigeant de la Caisse de dépôt.
C'est un des anciens dirigeants de la Caisse de dépôt qui est posté à Paris, là, qui avait été nommé par Martine Biron, ancienne ministre des Relations internationales. Tu sais, je comprends, là, moi, j'ai travaillé avec des élus. Des fois, tu es en meeting, puis tu te bats pour quelque chose, puis c'est pas ton action là, préconisée qui a été choisie. Puis on dirait que tu as le goût de dire « ouais, c'est pas mon idée, mettons », quand vient le temps de la déployer dans l'espace public. Mais une fois que la première ministre a décidé de se commettre là-dessus, ben il faut que tu t'effaces et que tu défendes ta première ministre. Mais je trouve qu'ils ont un peu échappé à ce niveau-là, parce que évidemment que M. Macron n'allait pas prendre le bord du Québec nécessairement. Pour deux raisons. Un, c'est de l'ingérence.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a une relation privilégiée entre le Québec et la France. Mais Macron, c'est pas Charles de Gaulle, là. Oui, il y a des présidents français qui étaient très pro-Québec et qui même ont fait un petit peu d'ingérence dans nos affaires.
Vive le Québec libre!
Exactement. Mais des présidents comme Nicolas Sarkozy, qui était très, très proche d'Ottawa, même chose avec Emmanuel Macron, qui est assez proche d'Ottawa, qui a tendance à aller voir le premier ministre canadien mm-hmm. avant de venir au Québec ou de pas du tout venir nous voir quand il y a des rencontres officielles avec le Canada. C'était certain qu'il n'allait pas embarquer là-dedans. Là.
On a-tu pensé qu'on était trop amis avec la France? Puis là, je m'explique. Moi, j'étais là quand Gabriel Attal est passé à l'Assemblée nationale. Eh oui. Mon Dieu, ah! Seigneur! J'avais jamais entendu François Legault se faire flatter dans le dos même. Oui. La nation québécoise. Il a même parlé de Simon Jolin Barrette.
Bravo, la laïcité, la langue. Là, c'était... Oui, c'est
fait
ça.
Là, moi, je chantais la France puis le Québec unis, même combo.
Main dans la main sur la marche vers le progrès.
Ah, c'était fou. Puis on a signé des décrets. Puis, et qu'on est heureux. C'était l'enfer. J'ai passé deux heures à l'Assemblée nationale à assister à cette conférence de presse-là de « Hey, je t'aime. Ah non, c'est moi qui t'aime le plus. Non, c'est moi là, qui
tellement.
T'aime le plus. »
T'as tellement raison. Puis je pense que ça a contaminé peut-être un petit peu les caquistes. Le président Macron, c'est pas Gabriel Attal. D'abord, c'est un bon coup. C'est dommage, hein, parce que c'est un bon coup de la part de la première ministre Fréchette de rencontrer Emmanuel Macron.
C'est clair.
Oui, le Québec a une relation privilégiée avec la France et la France a tendance à traiter le premier ministre québécois comme un chef d'État, beaucoup plus que d'autres pays le feraient. Mais c'est un peu au bon vouloir aussi de l'administration en place, parce que formellement, le vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est Mark Carney.
Mm-hmm.
Quand Gabriel Attal était venu au Québec, ben, premièrement, Gabriel Attal, c'était le premier ministre.
Exactement.
Donc, c'est le chef du gouvernement en France. C'est un peu différent. Je pense que l'équipe de Mme Fréchette, les gens qui sont sur place à Paris et le cabinet de la première ministre auraient dû préparer le terrain pour ne pas du tout que ce soit un objectif que M. Macron se mêle de qui va avoir la Banque de défense au Canada. Mm-hmm. Là. Il aurait dû au contraire dire, vous savez, on va parler de défense, mais on ne va pas aborder la question de la Banque de défense, une décision du premier ministre, puis évidemment du Canadien, puis évidemment, on ne va pas demander à M. Macron de se mêler de ça puis de le pousser à faire de l'ingérence. Bien sûr qu'on ne le mettra pas dans cette situation-là. Donc, ça met un peu de friture sur la ligne. Puis dans ce genre de mission-là, tu as beau avoir fait 95 % de choses correctement, bien, le petit côté négatif, ça met beaucoup d'ombrage sur tout le reste, parce que le reste, je veux dire, c'est une mission qui est très réussie.
Ben oui.
On n'avait pas l'objectif d'aller signer des ententes demain matin nécessairement. C'est des sujets qui sont d'intérêt. Là, je pense notamment, évidemment, à tout ce qui touche la défense, les investissements en défense, mais aussi la découvrabilité des contenus francophones. C'est un intérêt commun qu'on a avec la France et les autres pays de la francophonie. Et c'est très important pour le gouvernement de la CAQ, mais je pense pour pas mal tout le monde en mm-hmm. ce moment se dit que ça n'a pas de bon sens avec les plateformes, à quel point on ne trouve pas le contenu francophone facilement, puis que les nouvelles générations ont moins accès. La question des minéraux stratégiques, qui est cruciale pour l'économie du Québec, mais aussi, tu peux faire des liens avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique en ce moment. Hein. Tout le monde s'arrache ces minéraux critiques.
Je comprends pas que ça prenne pas plus de place dans l'actualité. Là. Ça, c'est
énorme.
Mais ça
va en prendre de plus en plus. Puis je voyais, évidemment, il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais il y a beaucoup de questions d'acceptabilité mm-hmm. sociale entourant les minéraux critiques.
Vraiment.
Qui, des fois, sont dans certaines municipalités, proches des gens, etc. Je pense là, j'ai vraiment un blanc de mémoire, là, mais dans le coin des Laurentides, en ce moment, il y a un projet de mine de graphite.
Mm-hmm.
Nouveau monde, ça s'appelle. Voilà.
Et voilà.
Qui brasse beaucoup de choses. Là. Les gens, ils veulent pas avoir ça derrière chez eux, mais quand on veut faire de l'électrification des transports, notamment, puis développer des batteries, ça va nous prendre ça.
Exactement. Donc, c'est un peu... Mais en même temps, tu comprends les gens avec... À l'époque, comment ça a été développé d'avoir toujours cette petite crainte-là, mais à un moment donné, il va falloir passer outre ça. Puis là, c'est facile pour moi de dire ça parce que ça se passe pas dans ma conscience.
On s'entend, mais tu sais, là, les gens, quand on parle d'acceptabilité sociale, souvent on parlait d'oléoduc et de gazoduc.
Mm-hmm.
Mais justement, c'est quoi l'alternative? Des batteries,
de
l'électrification?
De nouveau monde. Moi, je m'attendais à l'annonce de ce matin, puis oui. Ça vient de sortir il y a 5 minutes. Fait que mm-hmm. c'est super target dans ce qu'on discute, mais le gouvernement du Québec qui vient d'annoncer sa participation pour 85 millions de dollars dans le projet de mine mm-hmm. de Nouveau Monde de graphite du côté de Saint-Michel-des-Saints.
Oui, c'est très important. Donc, bref, c'est, oui, tu as raison de dire que ça prend peut-être pas toujours autant d'espace que les questions d'oléoduc, mais c'est très stratégique pour le Québec, mais aussi pour M. Carney, hein, qui veut des projets qui fonctionnent, qui a tout un plan de transformation de l'économie canadienne. Et je trouve que les sujets qui ont été apportés par Mme Fréchette en France sont très complémentaires avec ce que fait Mark Carney en ce moment sur la scène internationale. On n'est pas dans des dissonances non plus. Hein. Il y a eu certaines époques, je pense à l'époque de Stephen Harper et de Jean Charest, au Québec, où il y avait vraiment une dissonance. Quand M. Charest, à l'international, il disait pas des messages concomitants avec ceux de Stephen Harper, notamment sur les questions d'environnement. Mm-hmm. On n'est pas là-dedans en ce moment. Le Québec fait son pan de travail de son côté pour être sûr de tirer son épingle du jeu. On n'est pas en dissonance avec Ottawa et le travail de Mark Carney.
Parlant de friture sur la ligne, parlant de grands projets, parlant d'objectifs de Mark Carney, il a déposé un plan énergétique et un plan d'électrification, justement, pan-canadien, développement de notre réseau électrique jusqu'en 2050. Mais là, il y a de la friture sur la ligne entre Churchill Falls et Québec le projet, puis pas à peu près.
Oui, là, il faut comprendre, de notre point de vue au Québec, on ne réalise pas à quel point c'est un sujet sensible qui fait bobo là, du côté de Terre-Neuve-Labrador quand on parle de Churchill Falls.
Oui, parce que si tu me permets l'expression, on les a fourrés pendant une couple d'années.
Ils se sont fait fourrer, OK, pendant longtemps. Mais même, tu sais, tu peux te faire fourrer, mais tu peux te sentir très humilié. L'humiliation, que ce soit en politique ou dans vos relations interpersonnelles, ça a tendance à créer de la colère et même beaucoup de rancœur. Donc, quand vient le temps de renégocier l'entente de Churchill Falls, le Québec devait prendre en considération qu'on n'est pas devant nécessairement quelqu'un de 100% rationnel. On est devant, il peut avoir des envies de vengeance, de faire payer pour le passé de cette entente-là où on achetait une électricité à tellement beaucoup. Certains vous diraient, ben, il n'y avait personne à qui le vendre non plus, leur électricité, donc qu'ils ne viennent pas se plaindre. Mais objectivement, ils se faisaient avoir sur toute la ligne.
Écoute, juste pour faire le pendant, on se plaint qu'on envoie des surplus d'électricité qui ne sont plus des surplus, mais aux États-Unis, à très, très, très bas prix. Mm-hmm. Donc, si on se plaint de ça, on peut pas dire qu'ils se plaignent pour rien là-bas.
Oui, puis là, quand on dit à bas prix, là, c'est même pas comparable. Donc, vraiment l'enfer. Donc, il y a eu une élection à Terre-Neuve-Labrador il y a quelques mois maintenant. Et c'était le premier ministre libéral, M. Fury, qui avait signé l'entente. Et les conservateurs sont arrivés en campagne électorale en disant... Nous, cette entente-là, on n'est pas certain que c'est la bonne pour Terre-Neuve-Labrador. On va revisiter, on va faire un rapport indépendant sur cette entente et on n'exclut pas d'aller en référendum sur l'entente. Donc, c'est sûr que du côté du cabinet du premier ministre Legault à l'époque, de voir qu'on remettait en question l'entente de principe, qui, très objectivement, était une bonne entente. Okay? On parle de centaines de milliards de dollars pour Terre-Neuve-Labrador, qui en a bien besoin. Si vous pensez que des fois, on a de la misère avec nos finances au Québec... Je ne sais rien, là, à comparer de certaines autres
provinces.
Oui, si vous
croyez qu'on est endettés au Québec, à Terre-Neuve, sont endettés, je pense, le triple ou le quadruple par habitant comparativement au Québec.
Absolument. Donc, cette entente-là faisait en sorte qu'on achetait l'électricité 30 fois plus cher. OK? Donc, quand même, là, j'appelle ça un pas par en avant. Et il y avait des aspects très gagnants-gagnants. On développait d'autres projets, notamment. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti, le rapport qui avait été commandé par le premier ministre Wickham, qui dit que cette entente-là, finalement, n'est pas si avantageuse pour Terre-Neuve-Labrador. Mais de quel point de vue? C'est pas une question de tarif d'électricité. Okay? C'est pas ça. C'est, en tout cas, de ce que j'ai vu à date, on verra à la lecture du rapport complet, ce serait que Terre-Neuve ne se garde pas assez d'énergie pour elle-même. Donc, parce que vous savez, l'énergie, c'est un outil de développement économique aussi.
Clairement.
Donc, selon ta stratégie énergétique et de développement économique, ben, tu peux configurer les choses de différentes manières. Mais quand même, pour Québec, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'était une entente qui était vraiment très bien pour tout le monde, qui était prévisible. Et on a un agenda électoral ici aussi, là. Il y a une campagne électorale l'automne prochain. Donc... Là, ça peut être long du côté de Terre-Neuve. Tu négocies pas ça en deux minutes. S'ils veulent faire un référendum, je vous annonce que ça ne sera pas signé cette année, là, cette affaire-là. Et là, ben, qui vont avoir comme vis-à-vis à partir d'octobre prochain? C'est qui est premier dans les sondages? Le PQ?
Ouais.
Le PQ n'a pas été tendre avec l'entente de principe qui avait été
signée.
Et là, en plus, Terre-Neuve va aller chercher d'autres gains. ben je m'excuse, mais ça regarde mal. Et là, qui va s'en mêler? Qui pourrait dire, là, on va aller plus rapidement, on va s'arranger pour que ce soit signé? Ben oui, papa Carney, lui, il dit, là les enfants, là, on va se dépêcher là, avant que les séparatistes arrivent.
Ben c'est clair!
Mais même avec la participation de Mark Carney qui veut que ça aille vite, tu peux pas forcer, tu veux dire, ça va dépendre de ce que Terre-Neuve demande. Et le premier ministre Wickham, de quoi il a besoin? Il a besoin de démontrer clairement qu'il est allé chercher des gains supplémentaires pour sa province. Ouais. Donc, est-ce que Québec est capable de donner un face saver, quelque chose pour qu'il se sauve la face?
D'après moi, on serait peut-être capable de donner certains blocs d'énergie. Là. Si c'est juste ça que ça coûte, là, puis là, je réfléchis à voix haute avec toi, je me dis, les installations vont se faire. C'était vraiment la grande étape du plan de déploiement d'Hydro-Québec par la suite, qui se rend jusqu'en 2050 aussi. Alors, tu n'as comme pas le choix de dire, je vais faire quelques concessions pour que j'ai mon game changer,
si je
me permets l'expression anglaise.
Mais la politique prend toujours le dessus. Est-ce qu'ils vont avoir l'air de faire des reculs? Est-ce que finalement les oppositions vont critiquer une nouvelle entente? T'sais, c'est beaucoup de peut-être,
ouais,
c'est beaucoup de risques politiques aussi. Madame Fréchette, la première ministre, qui a réagi en disant qu'elle avait échangé hier avec le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador et qu'ils allaient prendre le temps d'analyser le rapport, que tout le monde s'entendait que ça prenait une entente gagnant-gagnant à brève échéance. Mais moi, je veux bien la brève échéance.
Oui, c'est ça.
On va passer un bel été à négocier. Je crois que le gouvernement du Québec a déjà fait de nombreux scénarios. Parce que de toute façon, évidemment, tout le monde surveillait l'élection. Mm-hmm. Terre-Neuve a suivi les débats politiques avec une grande attention. D'après moi, là, ils partent pas d'une page blanche. Là. Ils doivent avoir déjà réfléchi à des scénarios où on donne des gains supplémentaires à Wickham pour que politiquement ce soit tenable, mais que ce soit tenable politiquement aussi pour le gouvernement du Québec.
C'est ça. Maintenant, c'est de savoir si Christine Fréchette va être capable de cocher à case dans son fameux 100 jours.
Ben,
ou elle coche
ça.
Une case à chaque jour. Je sais pas si avoir le temps de le faire. On termine avec Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec. Moi, j'avais été complètement subjugué, Antonine, lors de son premier point de presse, alors qu'il a été nommé chef, par cette question-ci d'un journaliste.
Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre
On verra bien. Les Québécois, chaque Québécois a le droit de vote. Moi, j'ai voulu aller en politique. La politique, c'est faire une chose publique. Et je n'avais pas l'intention de me cacher par rapport à qui je suis pour les Québécois. Alors, ils jugeront, mais à voir le tonnerre de soutien que je reçois pour une nouvelle qui est apparemment une nouvelle, mais qui ne l'est pas. Je pense que ça me remplit d'espoir. Puis s'il y a des jeunes qui nous entendent, qui se reconnaissent là-dedans, mais grand bien leur face.
Le 17 mai, c'est-à-dire dimanche, c'était la journée nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Moi, quand le journaliste a posé cette question-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux bien que ça me calife, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel? C'est le dernier de mes soucis. Mais coudonc, on est-tu en train de reculer aussi dans notre société là-dessus? Parce que je vais te donner un exemple. Je me suis informé en fin de semaine. J'ai un contact à la prison d'Orsainville. Il me disait qu'ils sont 90 présentement en attente de passer devant le juge pour violence conjugale. Mais de boutillage, ça passe quoi avec nos hommes?
Ben
là,
oui.
Là, on est-tu vraiment redevenu avec des groupes homophobes? Là? Qu'est-ce qui se passe dans notre société?
J'ai l'impression que ces gens-là n'avaient pas vraiment disparu, mais qui sont décomplexés.
Ah,
Dire qu'on a un président aux États-Unis, la personne qui a le plus d'exposure médiatique au monde, qui se gêne pas là, pour faire des commentaires et déculpabiliser des gens de manquer d'humanité. Écoute, je pense que pour M. Milliard, dans l'extrait que t'as mis, c'est comme s'il était surpris de la question. Hein?
Ben oui, gars, on va réécouter le début.
Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre homosexuel?
Ah, ben mon Dieu!
Puis moi aussi, quand j'ai entendu cette question-là, j'ai dit, tu sais, tu t'en vas, toi, là.
Quand t'as mis l'extrait, c'est sorti tout seul. Alors, tout m'a regardé, mais j'ai vraiment fait, ah, tu sais,
c'est
ben
ça.
Non, c'est ça.
On est commis.
Ouais, on s'est dit, ça va avec ta question. On est au Québec, on est ouvert d'esprit.
Ben,
que Charles Milliard soit homosexuel, c'est le dernier de mes soucis.
Ben, c'est bien, une fois de temps en temps, de mettre le miroir, parce que c'est vrai, tu sais, on dit, ah, ben, on est rendu ailleurs. Là. Au Québec, c'est comme les droits des LGBTQ, c'est reconnu, on s'en fout de ça, il n'y a pas de problème. Ouais, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que tout n'est pas réglé.
Ça me décourage.
C'est décourageant, tu sais. Puis évidemment, on peut penser au message que Bruno Marchand, maire de Québec, avait posté aussi sur les médias sociaux en mettant les commentaires que son attaché de presse recevait. Et honnêtement, je suis pas mal sûre que M. Milliard aimerait mieux parler d'autre chose.
Ben oui.
Tu sais, son engagement politique n'est pas articulé autour des droits des LGBTQ.
Non, c'est ça.
Je suis sûr que ça prend une place dans son cœur, probablement, mais pas plus que d'autres personnes, d'autres politiciens, nécessairement.
Ben,
tu sais,
je dirais pas plus que l'équilibre budgétaire puis l'économie.
Ouais, exact.
Tu sais, je veux dire, ça fait partie de sujets dans lesquels mm-hmm. il va traiter politiquement, mais tu sais, il le met pas à l'avant-plan parce que
non.
il est une personne
il homosexuelle. Il se cache pas. Il met pas ça au centre de son engagement politique. Mais là... T'sais, c'est le 17 mai, c'est la journée contre l'homophobie. Il voit tous les commentaires passer, puis je pense qu'il se sent sûrement une responsabilité de dire « ben moi aussi, je vais prendre la parole », juste mm-hmm. pour rappeler aux gens que tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé, là. C'est non. important. Il y a même une recrudescence. T'en parlais chez les jeunes, notamment. Tu parlais des milieux carcéraux aussi, mais chez les jeunes, dans les écoles secondaires, les organismes le disent qu'il y a une recrudescence de commentaires homophobes. Il y a même une recrudescence aussi de sexisme
wow,
également.
Ouais,
puis d'ailleurs, en parlant de sexisme, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle parce que, bon, j'ai travaillé dans le gouvernement de Mme Marois. J'entendais beaucoup ce commentaire-là. La madame, elle passe pas. La Marois, la madame, elle passe pas.
Ouais.
Les Québécois sont pas prêts à élire une
ouais,
femme.
Ouais, puis là, j'entends la fraîchette. Mais oui. c'est drôle, on l'appelait pas le logo.
Non, c'est drôle, hein? C'est toujours juste les
hey,
femmes,
voulez-vous
c'est
bien l'appeler
madame.
La première ministre? Madame la première ministre?
Mais
madame
le logo,
fraîchette.
C'est fait quand même écœuré pour
oui,
peu
oui,
près.
Mais c'est pas
oui,
appelé
pas
le
dans
logo.
Le même genre.
Ouais, ouais c'est ça.
T'sais, c'est pas
on dirait que t'as raison qu'on s'en permet plus.
Et je fais un lien avec ce qui se passe avec M. Milliard. Quand je vois des commentaires, il y en a un qui m'a frappé particulièrement, c'est « Les Québécois sont pas prêts à élire un premier ministre gay. » Si toi, tu dis... Les Québécois sont pas prêts.
Ouais,
je t'annonce que c'est toi qui est pas prêt.
Non, c'est ça,
OK,
exactement.
C'est toi qui ralentis le groupe.
C'était
pareil avec Mme Marois.
Près,
le monde était là, les gens sont pas prêts à élire une femme. J'étais comme, si toutes les gens qui disent que les autres sont pas prêts arrêtaient de dire ça, je pense
non, c'est ça.
Qu'on...
On l'entendait aussi aux États-Unis avant l'élection de Barack Obama. Les Américains seront jamais prêts à élire une personne noire. Ben,
exact.
C'est drôle.
Puis demande-leur aux Américains en ce moment qu'est-ce qu'ils choisiraient.
Ben, ils choisiraient Barack Obama.
Aussi stupide soit ma question en ce moment, au niveau du leadership, là, ils ont préféré quoi?
Ben oui, c'est clair. Hey, écoute, il y a le
surpasser leur idée innocente et raciste?
Ben,
ou,
c'est ça.
Ben, c'est ça. Il y a le racisme, il y a le sexisme, il y a tout ça. Mais l'homophobie est toujours présente. On a quand même, tu sais, au Québec, j'aime ça regarder les bons côtés des choses aussi.
Vas-y,
il reste des choses à faire. Mais quand même, on a deux chefs de parti ouvertement homosexuels en ce moment, dont le chef du parti le plus à droite au Québec, ben,
oui.
en tout cas, le plus à droite dans les forces politiques pertinentes pour l'instant, Éric Duhaime. On a eu d'autres chefs de parti qui ont été ouvertement gays. Je pense à Manon Massé, mm-hmm. évidemment. Sylvain Gaudreau qui a été chef intérimaire
du PQ. Oui, Sylvain Gaudreau, vois-tu, je me souvenais pas justement
de
son passage.
Il était chef pendant quelques mois, mais quand même, après ça, on peut penser évidemment à toutes sortes de ministres, d'élus qui faisaient partie de la communauté LGBT. Quand même, au Québec, oui, on peut s'enorgueillir d'être un endroit où les droits des gays sont plus avancés que dans bien des endroits mm-hmm. dans le monde. Mais quand on lit les commentaires sur les médias sociaux, les amis, on pogne de quoi?
Non, c'est ça. Et changeons la société. Soyons des acteurs de changement. Moi, quand j'entends un propos homophobe, immédiatement, j'interviens avec la personne.
Ou sinon...
Je dis non.
Pour vrai, c'est aussi simple que ça, se fermer la gueule.
Exactement.
On va le dire en beauceron.
Ah, ouais.
Si toi, mettons, tu penses que ton commentaire est juste diffamatoire, déplorable,
dans le doute,
irrespectueux,
abstiens-toi.
Dans le doute, s'abstenir.
Mais en même temps, tu sais, je me dis, si j'ai un membre de ma famille qui est homophobe, j'aimerais aussi bien le savoir, ouvrir la discussion avec lui. Je sais que ça crée des malaises au souper de famille, des fois. Mais là, je dis ça, j'ai pas de personne dans ma famille qui va. Mais j'aime mieux le savoir puis dire, OK, pourquoi tu dis ça? T'sais, c'est quoi le rapport? Puis d'ouvrir le canal. Je trouve qu'au Québec, puis je vous en parle souvent, on n'est pas très bon toujours pour assumer le malaise d'un débat.
Mm-hmm.
À table.
Ça, voilà, mais c'est pour ça qu'il faut intervenir.
Mais sur les réseaux sociaux, tu sais, Jeff.
Ça, c'est plus tough. Là.
C'est souvent juste quelqu'un qui veut passer son commentaire et débattre.
Oui, mais c'est sûrement ce qu'il pense au fond de lui puis qu'il pense que, tu sais, je vais prendre mon iPad, là. Puis m'aller l'écrire, là, que les Québécois sont pas prêts à élire un homosexuel.
Puis surtout, élevons nos enfants dans l'ouverture d'esprit. Là.
Ben
moi, la mère des enfants, Cynthia, faisait tellement bien ça, ben, elle le fait encore là, avec les boys, où rapidement, je l'avais raconté en onde. Elle a fait écouter la télésérie Le Chalet. où justement il y avait un couple d'homosexuels dans cette télésérie-là. Puis après ça, elle disait toujours aux enfants là, qui avaient genre 7 et 9 ans là, hey, toi, quand vous ramènerez votre première copine ou votre premier copain.
Oui.
Je trouvais ça beau, c'est une belle ouverture d'esprit.
Elle posait pas la question, mais elle proposait que tout était correct.
Exactement. Vous savez, papa et maman vont être bien ouverts.
C'est ça.
Puis là, c'est là que je m'assinais avec, puis je suis pas ouvert. Non, vous comprenez.
Non, c'est ça. Blague. Ben, tu vois, tu vas le rendre gay.
Qu'est-ce que tu dis là?
Ben, non.
Oui, c'est ça.
Non, mais l'ouverture, ça commence avec nos enfants. Mais oui. Tu sais, j'ai envie de dire, les générations plus vieilles que nous aussi, tu sais, c'est sûr, la pensée évolue. Moi, je vois des gens dans ma famille qui sont plus âgés et je les vois encore évoluer. Honnêtement, il faut pas dire, oh, ben là, c'est l'ancienne génération. Ben non, ils ont des Facebook puis ils ont des iPads. Faut continuer la sensibilisation.
J'ai déjà, je vais le dire comme ça, cassé quelques personnes de 70 ans et plus qui étaient racistes.
Mm-hmm.
Et mes enfants étaient sur place. Je leur ai fait comprendre qu'on élevait nos enfants différemment.
Et voilà.
Maintenant, dans les années 2000. Ça, c'est comme ça. Faut s'assumer. Puis je pense qu'on est une société meilleure, justement. Si on accepte tous les gens, peu importe leurs différences, c'est ce qui... C'est justement ce qui fait une belle société, la différence.
Absolument. Puis de laisser le dialogue ouvert, d'apprendre à vivre avec le petit malaise, là, d'ouvrir la discussion des fois là-dessus.
C'est ça.
Voilà.
Antonin Iacarini, merci beaucoup. C'était le caucus avec Antonin Iacarini. Normalement, du lundi au jeudi, de midi à 12h30, mais vous comprendrez que...
Priorité hockey.
Ouais, on avait... ben, c'est ça! On avait commencé avec ça!
Et Carrier s'en parle d'avant de libre. Carrier, la passe, on entre avec Newhook, Evans vers le filet, le tir, et le but! Victoire des Canadiens! Alex Newhook propulse le CH en finale de l'Association de l'Est!
On n'a pas fini de jaser dans quelle émission on en jase. Courte pause et par la suite, on fait un tour des nouvelles avec Pascal CV. Puis je vais vous parler de dépenses qui sont très nébuleuses chez Capital Mobilité, cette filiale, cette société en commandite créée par la RTC pour pas trop qu'on sache comment l'argent est dépensé. Bien, j'ai eu des informations privilégiées qui me disent que, oh, boboy, c'est pas juste 4 millions de dollars qu'on va avoir perdu avec le contrat de Siemens pour une application intégrée pour le transport en commun.
Oh.